chers auditeurices, nous sommes le 5 juin, nous sommes un jeudi, il est 10h10 et on commence une belle matinale, une matinale qu'on va passer au jardin, mais je vais vous en dire plus. Nathalie au micro et accompagnée de Mathilde. Mathilde est revenue. Tu la connais cette chanson, Mathilde?
Oui, un peu.
Ah bah évidemment, c'est peut-être pour ça que tu t'appelles Mathilde d'ailleurs.
Non, pour ça.
Avec Amandine.
Bonjour.
Et avec Ilan.
Et bonjour.
Bonjour à tous les trois. Merci de m'accompagner. Deux jours de suite, hein, c'est formidable. Et hier, on a parlé d'écologie. Bon, là, on reste dans les jardins, mais on va parler poésie ce matin. Et je vais vous faire découvrir Manuela Parra. Bonjour, Manuela.
Bonjour. Très heureuse d'être là avec cette belle jeunesse, quoi.
Merci beaucoup, Manuela, qui est des fois la complice de Marie-Agnès dans le jardin d'Isis pour parler poésie. Ma complice dans Aéropage pour parler notamment de femmes d'Espagne courageuses et vibrantes. Mais aujourd'hui, c'est la Manuela, aussi la semaine espagnole quand même, qui est un événement, les rencontres espagnoles qui sont un grand moment justement où Manuela va vers la jeunesse, puisqu'il y a souvent des interventions en lycée pour parler et qu'on n'oublie pas surtout que la région est fortement marquée par la guerre d'Espagne et par l'arrivée évidemment de tous les réfugiés espagnols. Donc c'est aussi le combat de ta vie. On va se tutoyer peut-être, Manuela.
Je préfère autant. Hein,
voilà. Parce que moi je vous vois tout le monde, mais bon, ça serait un peu ridicule, je pense, entre nous deux de se lancer de vous. Et puis là, c'est vraiment d'autres choses dont tu vas nous parler. C'est quelque chose qui te tient à cœur, que tu organises depuis maintenant combien de temps, Manuela?
Ça fait la troisième année que nous organisons l'éco littéraire au jardin, donc l'association Voix de l'extrême poésie et culture, en partenariat avec le jardin et avec la complicité aussi de cette agglopole méditerranée, hein, qui nous permet finalement de réaliser ce bel événement chaque année, qui allie à la fois la nature exceptionnelle et les essences exceptionnelles de ce jardin antique et la littérature, la poésie, la connaissance, le savoir. Et ce sont souvent des membres de l'association qui sont des experts, et on l'oublie souvent, qui se proposent pour participer à cette manifestation dans ce cadre prodigieux, auquel je suis très attachée puisque je suis à l'origine de la création de ce jardin lorsque je travaillais. Et j'y suis revenue en proposant d'organiser cette manifestation littéraire.
Peut-être nous faire un court appel des Voix de l'Extrême. Donc c'est une association d'amis. Comment elle est née, cette Voix de l'Extrême, et depuis combien de temps d'ailleurs?
Alors l'association Voix de l'Extrême Poésie et Culture est née en 2018. Et avec de nouveau une belle complicité, celle de Voces del Extremo en Espagne, qui a fait le pari. Ce sont des artistes renommés, et des poètes, des écrivains, des cinéastes, puis des historiens aussi, qui a fait le pari que la culture était un levier de transformation sociale. Mmh. Et on n'est pas dans la diffusion. On est dans, par exemple, faire une poésie que l'on appellerait plus ou moins engagée, mais qui reste très poétique, ou un cinéma un petit peu d'avant-garde, va permettre de toucher les consciences, parce qu'il y a l'émotion qui rentre en jeu, et ça marque davantage que des slogans, etc. etc.
Et puis il y a toute une partie éditoriale, puisqu'il y a deux ou trois volumes qui sont sortis, des Voix de l'Extrême.
Oui. Et puis on a eu la chance de pouvoir créer ce mouvement en France. Les premières années, pour fédérer un petit peu les poètes, on a créé une anthologie internationale, avec des poètes espagnols et des poètes français. Et voilà, après il y a eu les rencontres franco-espagnoles. Nous, on s'attache, parce que dans l'association, il y a aussi beaucoup d'enfants de l'exil. Et on s'attache effectivement à travailler sur la mémoire, mais pas que la mémoire. Pour nous, c'est aussi pour apporter aussi un regard sur ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a beaucoup de partenariats, et notamment avec SOS Méditerranée. Hein, parce que quand on parle d'exil, il faut savoir d'hier et exil d'aujourd'hui, c'est les mêmes stigmates qui sont ressentis par les exilés et les descendants. Il faut savoir que dans l'Hérault, 25% de la population est d'origine espagnole.
Vous, tous les trois, vous êtes de l'Hérault? Oui. Vous, Ilan ?
Moi, je suis Toulouse, moi.
Toulouse. Ouais. Et toi, Amandine ?
De Picardie.
Ah oui, c'est une fille du Nord, elle est blonde, t'as vu. L'exil, alors toi qui connais la région, c'est quelque chose qui te parle. L'histoire des 25% d'origine espagnole dans la région, que c'est quand même très inclus. Et est-ce qu'on vous en parle, par exemple, dans les lycées ? Est-ce qu'on vous sensibilise là-dessus ou pas du tout ?
Moi, pas du tout. Non, même dans ma famille et tout, c'est vrai qu'on n'a pas d'origine espagnole, donc d'autant plus. Mais non, pas plus que ça.
Et c'est vrai que des fois, même quand on se balade, on sait que la rosée, c'est tenue par des Lopez. Enfin, tout Moguio, c'est des Lopez, des Pérez et des... tout ça sont souvent des enfants, des petits-enfants, et des arrière-petits-enfants, même maintenant, de réfugiés. La guerre d'Espagne, ça vous parle, tous les trois ou...
Oui, 36-39.
Ouais.
Ouais, Franco, tout ça.
Ouais.
Et Ilan, tu n'es pas d'origine espagnole ?
Ben moi, j'ai un peu d'origine espagnole.
Ah, 27%.
Ah. On a les 25% dans le studio.
Ben moi, j'avais mon arrière-grand-père qui était macaque. Et, c'était un très grand ami de Georges Brassens. Mmh. Et du coup, c'était un peu. Quelqu'un ma famille, c'était des gens du voyage, en fait. Mmh. Et du coup, j'ai cette culture un peu qui provient d'Espagne aussi. Mmh. Donc, je m'y connais un peu.
Et l'exil, Amandine, t'es une exilée du Nord, alors dis-nous quand même, parce que t'es arrivée quand dans la région ?
Ça fait 3 ans.
Ouais. Et alors, t'es une exilée, t'as laissé une partie de ta vie quand même là-bas, les copains d'enfance, tout ça ?
Oui, c'est vrai, ma famille.
C'est aussi un sentiment d'exil, Amandine, c'est pas parce que c'est d'un pays à l'autre. Moi, je suis parisienne d'origine et je me sens toujours, au bout de 40 ans, en exil de mon enfance. C'est quelque chose qui tient.
Oui, c'est vrai.
Un peu ?
De plus en plus, peut-être.
Ouais. Et alors, la partie poétique de Manuela, est-ce que la poésie, aujourd'hui, dans l'éducation nationale, comment on vous a sensibilisé à la poésie ? Quel rapport vous avez à la poésie ? Qu'est-ce que c'est la poésie pour vous ? Est-ce que c'est quelque chose de tout à fait classique, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, et encore ? On en parle encore ? Yann, peut-être ?
La poésie, je trouve qu'on en parle moins actuellement qu'avant. Enfin, quand on parle de poésie, on fait souvent référence du coup à Victor Hugo, tout ça.
Ouais.
Mais la poésie moderne, c'est vrai qu'on en entend moins parler, je crois.
On connaît mal, ouais.
Ouais. Mm-hmm.
Vous connaissez pas Grand Corps Malade ? Vous connaissez
si, voilà, mais c'est plutôt des trucs... En fait, ça évolue, je pense. Non, c'est un courant qui évolue après.
Faye ?
Ouais, Gaël Faye.
Gaël Faye.
Oui, Gaël Faye avec le Rwanda.
Ouais. Oui.
Très beau livre, Petit Pays. C'était d'ailleurs le prix Goncourt des lycées, Gaël Faye. Hein.
Ouais.
Et leur travail d'ailleurs avec Grand Corps Malade, Gaël Faye, et puis le troisième.
On n'a pas le troisième.
Qui est Toubib. Voilà.
Ah, c'est OK.
Là, il est Toubib. Non, ils sont trois faire des chansons ensemble. Et, toi, tu aimes ça aussi ? Et ça représente quoi la poésie ? Si je te dis poésie, tu vas penser à quoi en premier, Amandine ?
À Jean de La Fontaine.
Ouais.
Parce que, moi, la poésie, je l'ai surtout appris en primaire et
au
lycée, mais pour le bac, mais c'est tout, quoi. Mm-hmm. On ne voit pas vraiment.
Mais c'est incroyable parce que quand on relit aujourd'hui Jean de La Fontaine, on voit combien cet homme était engagé.
Oui. Bien sûr.
Hein ? Il y a plusieurs
des messages politiques dedans.
Même Victor Hugo. Victor Hugo, évidemment. Mais si on lit, en fait, le problème, c'est qu'on pense que la poésie, c'est quelque chose d'élitiste, qui ne nous est pas accessible, d'une part. Et d'autre part, on l'apprend pour apprendre, pour avoir une bonne note, pour. Mais on s'y love pas à l'intérieur, comme on va pouvoir se lover dans une exposition de peinture aussi spontanément. Mm-hmm. Et c'est dommage, parce qu'il y a des messages qui sont transmis par la poésie, qui sont fondamentaux par rapport au sentiment d'humanité. Et ça, on l'oublie souvent. Voilà.
Mais je trouve qu'il y a un côté un peu moins explicite aussi en poésie. Des fois, c'est un peu énigmatique ce que veut dire l'auteur et tout. Enfin, en tout cas, moi, quand je passais mon bac de français, souvent, on faisait vraiment ligne par ligne pour vraiment comprendre le message de l'auteur.
Parce que c'est une certaine poésie.
Mm-hmm. Ouais, voilà.
Voilà, c'est vrai qu'il y a poésie et poésie. C'est vrai que René Char ou même le bateau ivre de Rimbaud qu'on apprend à l'école. Enfin, moi, je l'ai appris à l'école. Il faut vraiment t'expliquer chaque. Parce que c'est même plus. C'est la transcendance des mots, quoi. Mm-hmm. Tu vois, on va à ailleurs. Il y a aucun. Si je vous dis poésie, il n'y a aucun. Donc, tu m'as dit La Fontaine, mais un texte qui vous viendrait, non ?
L'Albatros, moi.
L'Albatros ?
Ouais.
Ah oui. Oui, ça va.
Et toi ? Mathilde, non ?
Moi, j'aime bien Villon.
Ouais.
Mais parce que je l'ai étudié du coup il y a 2 ans et juste son histoire, ça m'avait plu. Et puis ses messages aussi un peu rebelles.
Là, on va exactement dans ce que dit Manuela, que la poésie est souvent vraiment une. C'est une niche à rebelle un peu quand même.
Ouais. Hein. Ouais. Il y a Jacques Prévert. Ouais. Jacques Prévert derrière ces mots. Ouais. Celui qui tape là sur
le petit œuf
sur le zinc.
Le bruit de l'œuf sur le zinc.
C'est
deux mots, ils disent tout des fois.
Voilà. C'est incroyable.
On va parler de ce qui va se passer le 8.
Ah,
merci de vos témoignages. C'est important aussi d'entendre la voix de la jeunesse. Donc, je dis ça, c'est la voix de la jeunesse. Et là, tout d'un coup, les trois, là, c'est la voix de la jeunesse. Donc, cette année, c'est la troisième édition de l'Écho littéraire au jardin. Oui. J'ai eu la chance de faire celui de l'année dernière. Mon état de santé ne va pas me permettre de faire celui de cette année. Mais il faut en parler. Donc déjà, l'origine, la philosophie de la manifestation, donc c'est toi qui es à la base. Hein. Tu vis à Balaruc.
Oui, j'habite à Balaruc.
Tu aimes ce jardin?
J'adore ce jardin.
Et tu as eu envie d'en faire quelque chose, de ce jardin?
Oui, déjà, il y a des choses qui sont faites par les équipes, etc. Bien sûr. Mais pour ma part, j'ai eu envie d'apporter ma connaissance et mon expérience que je développe depuis que je suis retraitée. Et de le leur proposer. Donc, bon, voilà. Et puis ça a bien fonctionné. Et j'ai été très étonnée de voir combien le public vient aux manifestations. Là, on a eu le dimanche
25 mai,
on a fait un travail autour de la vigne. De l'origine de la vigne. On a fait rencontrer un vigneron avec un poète vigneron, donc Christian Gilles et Jacques Gilles. Ensuite, on a justement par rapport à ce que vous disiez, la personne, la directrice de la culture de Metz, on a aussi abordé la question du changement climatique sur la vigne après une dégustation. Et donc, mêler comme ça la poésie dans des chants qui sont très très contemporains, et donc ça lui donne aussi une autre envergure. Et cette année, et pour la troisième année, et pour la troisième. Balade poétique qu'on fera au cœur des essences, c'est souvent au moment de la journée des jardins remarquables, puisque dimanche c'est
la 22e édition de la journée des jardins remarquables.
Et donc à ce niveau, comme chaque fois, on fait souvent découvrir des voix où on donne la parole à des voix qui sont déjà découvertes et qui aborde notamment pour certains des problèmes contemporains. Donc on va par exemple accueillir Aurora Vélez, qui est une amie qui est poète espagnole qui habite Lyon, qui est reporter journaliste sur Euronews et qui vient de sortir un recueil de poésie qui s'appelle Errante, pour donner l'envers du décor du journalisme justement. C'est pour ça que je pensais à vous trois, si ça vous intéresse de vous joindre à nous. Parce que franchement, son recueil de poésie démontre ce que c'est que réellement à partir sur le terrain, faire des reportages, comment c'est difficile. Elle est aussi productrice et donc poétesse. Et elle travaille à l'international, hein, puisqu'elle travaille sur Euronews. Voilà, donc...
On va parler peut-être des trois événements qui vont venir. On se retrouve en septembre, parce qu'il y aura quelque chose. Mais on reviendra-tu en septembre. Ouais. Donc, on va parler du dimanche 8 juin, avant notre pause musicale. Donc, ça commence à 10h30, avec trois poètes sous les arbres, Éric Chassefière, Flore Iborra et Régine Sédel.
Oui.
Donc, je devais animer, c'est toi qui vas t'en occuper, vraiment. Et comment ça va se passer? C'est des entretiens? Ils vont lire leurs textes?
Oui, il va y avoir un petit moment où on va les présenter. Et puis ensuite, ils auront le micro pour présenter leur univers. Donc, Éric Chassefière, qui est quand même polytechnicien, qui est astrophysicien et qui est aussi poète. Et donc, on le sent dans sa poésie, cette espèce de sublimation par rapport à la nature, par rapport au jardin, puisqu'il a toute une poésie autour des jardins. Donc, d'ailleurs, vous l'avez accueilli récemment. Et Flore Iborra, qui est, elle aussi, une poétesse très engagée.
Oui, parce qu'elle organise même un festival de poésie,
qui est bientôt d'ailleurs. Oui, qui est en début juillet, trois jours en juillet, et qui depuis trois ans vient avec nous et qui se prête au jeu, notamment de la balade guidée que l'on fera à 14h30.
Et puis Régine.
Et Régine, c'est d'elle qui, bon, qu'on connaît bien à Montpellier, quoi.
Qui est une voix forte sur Montpellier.
Voilà,
qui a proposé pendant des années un café littéraire à Malbosc.
Voilà.
Après, donc, il y a une scène ouverte.
Oui, tout à fait. La scène ouverte pour permettre à des personnes que l'on ne connaît pas, parce que souvent, ces personnes sont adhérentes
par exemple,
à l'association, hein. de s'exprimer, de lire des textes ou de lire un peu de poésie, chacun à 3 minutes. Et ça nous permet à nous de découvrir de belles voix qui sont loin des circuits convenus et de donner un petit peu la parole à des personnes qui ne peuvent pas s'exprimer.
Après un repas tiré du sac ?
Eh oui, comme d'habitude.
Ouais, voilà.
Partager.
Et à 14h30, je dis bien sur inscription, donc il y a une balade guidée en éco-poésie en jardin.
Oui.
Alors des fois ce matin, on a déjà parlé d'éco-anxiété ce matin. Maintenant, on parle d'éco-poésie. Hein. Vraiment, c'est... et avec des poètes qui vont venir et qui vont mêler leurs verbes, de la musique... des essences à sentir, c'est ça ?
Peut-être, voilà, oui.
Par une déambulation, donc je vais les citer, si ça ne dérange pas.
Alors oui, je vais aussi citer les animateurs du jardin, qui eux, présentent au public qui fait la balade guidée les essences. Et entre le romarin et le thym, il y a un poète qui va à la rencontre du public et qui lit une poésie. Voilà, donc avec nous, il y aura Jean-Claude Bouillard, qui s'est chargé cette année de cette organisation.
Un mec formidable.
Formidable,
ouais,
un très grand poète aussi.
Et en plus, hier soir, j'étais avec lui à la Gazette.
Ouais.
Et j'ai découvert ses livres. Il édite lui-même ses livres. Il les imprime, il les découpe, il les met dans des petits coffres.
Magnifique. C'est magnifique.
Seul,
c'est magnifique. Ouais. Et ensuite, Elisabeth Vitilli, Catherine Bruno, Véronique Brault, Maria Lourdes Aparicio et Dominique Barbera, Linda Tahouti.
Une voix formidable.
Voilà, une voix qui sera là. Je ne sais pas si elle qui
choisit.
Et puis il y aura Marie-Agnès Alizada, évidemment. Il y aura Frédéric Fautrier, je suppose. Peut-être si je peux, je lirai un poème ou deux.
C'est une histoire d'amitié aussi, quand même. Hein,
oui, cette association est une histoire d'amitié.
Je me rappelle tout au début, en 2018-2019, quand vous retrouviez à la Gazette avec Frédéric, Frédéric Fautrier, pour élaborer ce que ça allait devenir, les voix d'extrême.
Oui, c'est vrai.
Et puis à 16h, au cœur du jardin, avec justement
Aurora Pérez. Ouais. Et ensuite, on termine par Philippe Oudinot, dit le Gitan Noir. Hein.
Qui est très connu sur la ville, voilà.
Un homme vraiment extraordinaire aussi, quoi.
C'est un homme noir, puisqu'il s'appelle le Gitan Noir, donc voilà, mais qui a grandi à la cité Gélie, dans un milieu gitan, toi qui disais que...
Ouais. Non, hein, oui, complètement.
Ça faisait partie de ton histoire.
Ouais.
Et alors, il a complètement été adopté par la communauté gitane, et on va l'écouter, voilà. Hein, Yann, on va l'écouter.
Ça m'a vraiment blessé. Et moi j'ai gagné. Tu peux même pas imaginer tout le mal que ça m'a fait. Oh non, pas pour moi j'y croyais. Oh, tu peux même pas imaginer comment ça a pu me changer. Maintenant plus de pitié. C'est le bouclier, c'est l'expérience qui me l'a donné. Avec mon épée à double tranchant, je dois me faire rester. Et tant pis, même si ça doit blesser. Dire que pendant des années, j'étais aveugle sous les murs. Mais maintenant je vois, j'entends et crois, moi je vais parler. Priez pour que tout de moi les gens soient près de moi. Je me croyais, tu peux même pas imaginer tous les mal que ça m'a fait. Imaginez comment ça a pu me blesser.
vous êtes toujours sur Radio FN+, dans cette matinale du jeudi 5. Toujours Nathalie au micro, en compagnie de Mathilde, Amandine et Ilan. Et avec notre invité, Manuela Parra, qui est venue nous parler déjà en première partie de matinale de la journée du 8 juin. On vient d'écouter la voix de Philippe Udino. Oui, on parlait de la guitare, mais on précise aussi que c'est un très très bon chanteur. Tu ne sais pas du tout s'il va chanter, parce que concert de Flamenco et Soul.
Eh bien oui, parce qu'en principe, Philippe, il accompagne les poètes, souvent, très souvent. Et cette fois-ci, moi, j'ai eu très envie, on en a discuté avec Marie-Agnès notamment, et on a eu envie que Philippe ait son moment à lui, et complet, quoi. Et voilà.
Parce que souvent, c'est d'ailleurs incroyable, pendant que les poètes disent, il improvise.
Oui.
Philippe, hein, il va complètement, il se laisse aller complètement à l'improvisation.
Mais il est joyeux, il est fou, c'est extraordinaire.
Donc ça sera à 16h30 le soir, en clôture.
Oui, tout à fait. Oui.
Tu sais où ça va être, le concert?
Eh bien, ce sera dans l'amphithéâtre en bas, oui.
Ouais, d'accord.
Parce qu'en fait, il y a un endroit où il y a un écho formidable. On n'a même pas besoin
de sonorisation.
Donc, c'est super, quoi.
Eh bien, on va se projeter au week-end d'après. C'est le dimanche 15 juin à 15h30.
Oui.
Tu nous en parles?
Oui. Alors là, c'est Christine de Berteuil qui fait aussi partie de l'ASSO, qui est secrétaire adjointe de l'ASSO, et qui est une spécialiste du monde des mésoaméricains. Alors, je le dis
dessus. Je ne sais pas ce que c'est, moi.
Voilà. Alors, je vais vous dire dessus.
Si les peuples. Donc, on est les quatre à ne pas savoir ce que c'est.
Non, mais moi non plus, je ne savais pas ce que c'était les Mésoaméricains. Quand on m'a dit ce que c'était, j'ai dit ah oui, je sais. Ce sont les Mayas et les Aztèques.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Vous voyez, ah oui.
Ah oui.
Voilà. Donc,
ils ont été élevés aux mystérieuses cités d'or ou pas?
Oui.
Oui, hein? Parle dans le micro, Mathilde.
Oui, bien sûr.
Voilà. Donc, en fait, elle va nous raconter. N'oublions pas qu'on est dans un jardin. Et on est quand même attentif à toujours avoir tiré le fil qui a un rapport avec l'espace. Et donc, elle va nous parler de leur rapport avec la nature et l'univers. Et en fait, Christine est une des spécialistes de cette culture mésoaméricaine. Et puis, elle est diplômée de l'Université de Mexico parce qu'elle a vécu pratiquement toute sa vie à Mexico. Voilà.
Et donc après, vous pourrez regarder les mystérieuses cités d'or et puis lire Tintin. Il y a un Tintin qui se passe au Picaro, ouais. Je ne sais pas quoi. Il y a Tintin. Voilà. Non, et le Temple du Soleil. Ouais.
Voilà. Donc là, je lis un peu pour.
Bien sûr, bien sûr.
La Mésoamérique est la région culturelle qui s'étendait du Mexique jusqu'au nord du Costa Rica, où des civilisations avancées comme les Mayas et les Aztèques ont prospéré avant l'arrivée des Européens, voilà, notamment des Espagnols.
L'arrivée des Européens est un peu trucideur quand même. Voilà. Hein.
Sur ce grand territoire, les Mésoaméricains vivent en harmonie avec la nature, leurs croyances sont profondément ancrées dans le cosmos et la quête d'équilibre entre le monde terrestre et l'univers sacré. Voilà.
Ça vous a intéressé à un moment ou à un autre, l'Amérique du Sud, les civilisations précolombiennes, tout ça?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Moi, je m'étais juste intéressée parce qu'il me semble que la première race de chiens, ça venait de cette région.
De cette région-là? Ilan, ça te parle, non?
J'aimerais juste bien visiter l'Amérique latine, mais hormis ça, l'histoire, je ne m'y suis pas encore réellement penchée, mais... Ouais, en Colombie, tout ça, c'est pas mal, les FARC.
C'est passionnant. Et alors là, autant en 38-39, les Espagnols ont été victimes, autant là, ils ont quand même été... Il y a un film formidable, je ne sais pas si c'est encore disponible, qui s'appelle Aguir ou La colère de Dieu, qui vous explique vraiment bien la sauvagerie des Espagnols en Amérique du Sud. Ben, on va apprendre tout ça.
Ben oui.
Hein oui. Donc 15h30, par Christine Berteuil, le dimanche 15 juin à 15h30. Mmh. Et puis on se retrouve pour finir le mois de juin.
Voilà, le 29 juin, avec une deuxième édition d'une balade philosophique dans le jardin, qui sera guidée par Zoé Amiel, et qui raconte, elle ne fait pas de la philosophie, elle raconte l'histoire de la philosophie dans le monde grec antique pour arriver aux civilisations romaines. Mmh. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'elle le fait à la mode des antiques, c'est-à-dire on marche. Les antiques faisaient la philosophie
c'est
en
vrai.
Marchant.
Platon marche.
Voilà, donc on le fait comme Platon, avec des petits pour certains qui peuvent pas marcher, des petits sièges. Et donc ça va être c'était très joyeux parce qu'elle a Zoé a beaucoup d'humour et elle raconte ça avec un humour extraordinaire qui nous fait tous rire et en même temps on apprend dans ce cadre magnifique et on commence par le bois sacré. Mm-hmm. Donc voilà, puisque c'est dans les bois sacrés, des cimetières qui étaient inclus dans les vides, que les philosophes aussi marchaient, puisqu'on ne faisait pas nécessairement de la différence entre la mort et la vie à cette époque-là. Donc voilà.
Donc sur inscription, bien sûr.
Sur inscription,
oui. Tout ce qui est balade, il faut que ça soit sur inscription.
Bah oui, parce qu'une année, on s'est retrouvés, on avait bloqué à 30, il y avait 50 personnes. Ah. Et ceux du fond, après, ont râlé parce qu'ils n'entendaient pas. Donc, si c'est pour avoir des conditions où les gens ne sont pas satisfaits, c'est quand même dommage. Bon, après, on ne peut pas... Si les gens ne s'inscrivent pas et qu'ils viennent après, ça vient de leur responsabilité. Voilà.
Et puis après, c'est un ami à toi, Jean-Hervé Mirouz.
Oui, qui n'est plus là.
Oui.
Et donc, on va faire une après-midi culturelle qui lui sera dédiée. Et donc, on va essayer de reprendre notamment quelques extraits de... Ben d'ailleurs, on va prendre l'extrait de sa lecture du dialogue des Carmélites qu'il avait fait à la radio pour la nuit de la lecture.
La lecture, bien sûr.
Voilà, donc on remercie de nous l'avoir confié pour encore entendre sa voix. Voilà, donc... Et on veut que ce soit un événement joyeux quand même. Mmh. Et puis, on va reprendre des extraits de sa conférence de l'année dernière quand il a fait Colette au jardin, avec quelques musiques qu'il avait choisies. Et en fait, on le fait aussi en partenariat avec la compagnie du Bateau-Bœuf, puisqu'il était comédien et qu'il jouait encore. Donc la compagnie du Bateau-Bœuf qui fête ses 40 ans cette année, qui est une compagnie qu'il avait créée et qui va normalement apporter des photos, des spectacles qu'ils ont joués, qui est une exposition magnifique, qui va aussi nous apporter le costume de Jean-Hervé quand il jouait Ruy Blas, qui va lire certainement des extraits de Ruy Blas. Puis il y a une comédienne qui s'appelle Jeanne Corporon, qui avait joué dans La Graine et le Mulet d'ailleurs, qui va lire aussi des textes, qui a très bien connu Jean-Hervé, et les membres de donc Élise et ses amis de la compagnie, qui sont comédiennes, ont été formés par Jean-Hervé Mirouz.
Tu vas arriver à...
Oui.
C'est un moment dur quand même pour toi.
Oui,
chargé d'émotions,
oui,
en tout cas.
Oui, mais je ne veux pas que ce soit...
Tu ne veux pas que ça soit triste.
Non, parce que c'était quelqu'un qui était plein d'humour. Et jusqu'au bout, moi, je l'ai vu le dernier dimanche de sa vie, que j'ai passé l'après-midi avec lui. Et juste pour anecdote, je lui avais offert un petit livre de Carmen que j'avais retrouvé, ancien, puisqu'il était chanteur lyrique aussi. Et donc, il a commencé à chanter « L'amour est un oiseau rebelle » et en terminant, il me disait « Tu as vu, j'ai encore de la mémoire. » Donc, voilà. Et puis, bon, d'autres moments assez joyeux qu'on a passés. Alors, même si c'est émouvant, bon, ben, on va... Et puis, on clôturera avec un verre rosé de l'amitié, puisque c'est la seule boisson qu'il buvait. Mm-mm. Voilà.
Et après, tu te reposes?
Après, je me repose pas.
Juillet-août, quand même, tu fais une pause ou pas?
Non.
Ben voilà.
Non, juillet-août, je ne fais pas de pause, puisqu'après, je participe au festival à Alignan-du-Vent, organisé par Flore. Puis je pars, donc là, je vais encore lire Des frontières et des femmes. Je pars à Mauguer pour faire une conférence sur à la fois l'immigration économique des Espagnols en France, qui est un mouvement qui est très méconnu là-bas, enfin, qui n'est jamais trop expliqué. Si celui de la Retirade en a beaucoup expliqué, celui-là non. Donc c'est le festival Voces del Extremo. Mm-hmm. Et je lirai aussi des récits des frontières et des femmes. Et puis, ben, en septembre, on repart sur l'écho littéraire.
Et la semaine espagnole, c'est quand?
Et les rencontres franco-espagnoles auront lieu du 19 novembre au 26 novembre.
D'accord, donc avec 2025, bien chargé.
Oui, avant cela, je ferai quelque chose au Mémorial de Rivesaltes. Et le 21 juin, le 21 et voilà, et puis le 21 juin, juste pour annonce, nous lisons des frontières et des femmes à la médiathèque Émile Zola à 15h30 pour la journée de la musique avec le saxophoniste Baptiste Gélineau et le joueur classique de oud Yad Radvan et avec les comédiens Alexandre Pratelon et moi-même en tant qu'autrice Zia Pratelon. Donc voilà, c'est un spectacle qui aura lieu à 15h30.
Moi, je ne veux pas fêter Noël avec toi, tu vas être crevée, tu vas être décalquée, comme on dit. Hein, voilà.
Non, non, tout est en entrée libre.
Ça te porte, tout
oui,
ça,
ouais, oui,
ça
oui.
Te porte.
Tout est en entrée libre.
C'est
aussi
la question que j'allais te poser, parce voilà. Que tout ça, on n'a parlé ni de comment se renseigner, ni de combien ça coûte. Voilà. Donc, si tu peux nous alors, faire. Il nous reste trois petites minutes pour faire le récapitulatif.
En principe,
de tout
ça. L'association organise des manifestations gratuites. Voilà, on dit entrée libre pour faire un bien, mais c'est gratuit parce qu'on considère que la culture doit être accessible à tous. Voilà, ça c'est un premier point. Et puis, pour
l'écho littéraire, excuse-moi, je t'interromps, mais pour l'écho littéraire, donner l'adresse, donc c'est à Balaruc-les-Bains, ouais. C'est rue des Pioches, 34 540 à Balaruc, évidemment. Il y a aussi sur le Jardin de l'Antique des infos sur
voilà,
ce qui se passe.
Tout à fait,
pas que sur le site voilà. Des Voix de l'Extrême.
Et puis sur Facebook aussi, on peut trouver, sur cette Aglopole Méditerranée, au Jardin Antique. Voilà, donc c'est
facile d'accès.
C'est facile d'accès, ouais. Il y a des parkings, etc.
Donc, moi, je me suis paumée l'année dernière, tu te rappelles, mais bon, là, c'est, maintenant que je sais, c'est facile.
Ouais.
Donc, gratuit.
Oui.
Les trois journées sont gratuites.
Oui, en fait, ouais. Comme il y a un écho littéraire, l'entrée du journée est gratuite.
D'accord. Et puis, quoi dire de plus quand même pour savoir, pour se renseigner sur les voies de l'extrême en général.
Il faut aller sur le blog.
Eh oui, alors on le donne le blog.
Voilà, on donne le blog et puis on peut donner l'adresse mail.
Oui, bah vas-y.
Alors l'adresse mail.
C'est
c'est voiedelextreme@gmail.com et le blog c'est https://voiedelextreme-poésie-et-culture-tout-attaché.blogspot.com. Voilà. Donc,
il y a plein de petites. On en laisse à la radio, hein, si vous êtes dans le coin à la radio. C'est le tien, mais on laissera un peu de
oui,
pub
oui.
Pour en parler. D'ailleurs, tout ça, peut-être citer Coralie.
Oui,
hein, parce que c'est elle qui a conçu tout ça.
Oui, oui, hein, oui, voilà. La pauvre, je l'ai oubliée.
Ben voilà.
Ma pauvre Coralie, donc qui a monté une entreprise et Coralie Ferrandis et qui s'est occupée avec beaucoup de patience et on la remercie. De tous ces poètes.
Eh bien, merci beaucoup, Manuela. Je t'interromps parce qu'on doit rendre l'antenne. Il y a des émissions derrière nous. Merci, Manuela. À très vite sur les ondes de Radio FM+. Tu sais qu'ici, c'est un peu chez toi.
Merci à vous.
Merci,
Ilan.
Merci
à vous. Merci, Amandine.
Et bienvenue.
Et merci, Mathilde. Je crois qu'Ilan et Mathilde, je les retrouve la semaine prochaine.
Oui, bien sûr.
Voilà. Merci beaucoup et à demain pour une autre matinale.
Au revoir.